Nous sommes le jeudi 3 octobre, vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2. Il est 21h, bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actualité sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment tu vas ?
Ça va, je peux parler normalement.
Ah, c'est cool. Eh ben, ça me fait plaisir que tu ailles mieux que l'entreprise dont on va parler aujourd'hui.
Oui, un petit peu plus de perspective d'avenir, on va dire, de visibilité.
Oui, un peu plus de visibilité sur l'avenir, vu qu'aujourd'hui, ça va être une émission qui va être essentiellement consacrée à Ubisoft.
Ubisoft, ce mastodonte français.
Cette gigantesque entreprise, en fait, pour être clair, le jeu vidéo en France, c'est 50% Ubisoft, à peu près. Je pense qu'on peut.
Ça doit pas être bien loin si on compte tous ceux qui y sont passés, tous ceux chez qui ça a servi d'apprentissage.
Oui. Et quand je dis 50%, c'est peut-être même plus que ça. Hein. Donc, parce qu'il faut compter non seulement les gens qui sont encore employés aujourd'hui, en disant qu'une une personne sur deux en France qui travaille dans le jeu vidéo travaille pour Ubisoft, je pense qu'on y est. Et si je dis une personne sur deux. Si on parle de son passé par Ubisoft, là, je pense qu'on arrive quasiment aux trois quarts.
On doit être dans ces eaux-là, parce que Ubisoft, ça fait un moment.
Oui. Ça a commencé quand Ubisoft, tu sais, toi ?
C'est une très bonne question. Ah. Merci de l'avoir posée.
Ah, d'accord. Donc,
je comptais sur toi.
Ah, bah, alors là-dessus, honnêtement, je ne pourrais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que je sais que les débuts d'Ubisoft reviennent vraiment au tout début des qu'on appelait ça des logiciels de jeux vidéo. Donc, on repart dans les années 80. Et en fait, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, en fait, déjà, ces dernières semaines.
On a beaucoup entendu parler.
On a beaucoup entendu parler d'Ubisoft. On voit un peu partout des titres. Ubisoft va mal, Ubisoft est en train de couler. Et on avait envie. Et avec des titres assez catastrophistes.
Oui, mais ça, c'est parce que tu regardes des. Tu te renseignes sur des journaux à sensation.
Ubisoft est trop woke.
Voilà, exactement. Tu demandes l'avis d'Elon Musk. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Renseigne-toi.
Et non, en fait, on voulait retracer très rapidement l'histoire d'Ubisoft, mais surtout parler de pourquoi les gens pensent que ça va pas, et en fait pourquoi.
Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui ?
Globalement, en vrai, ça va pas.
Oui, il y a quand même de quoi, des raisons de se poser la question. Il y a un enchaînement de situations qui font que ça vient pas de nulle part. Donc, on parlait un petit peu de l'histoire d'Ubisoft. Oui. Effectivement, fondation par les frères, enfin la famille Guillemot. Dans les années 80.
C'est ça.
La création serait officiellement le 28 mars 1986.
Oui, mais c'est pour
ça
que...
Ça nous ramène quand même...
C'est pour ça que... Alors, 86, soyons clairs, c'est l'époque où quand on parlait d'entreprises de jeux vidéo, c'était deux types dans leur garage. Hein. Surtout en France.
Alors, ils étaient plus nombreux que ça, mais...
Mais bon, voilà, c'est un peu... C'était... La manière de faire les jeux était très, très artisanale, donc voilà. C'est Et ça. En plus, ils se lançaient à la base... directement comme éditeur ou il développait tout de suite
C'est une bonne question parce que oui, donc effectivement, dans les années 80, c'était de la distribution en fait.
Oui.
C'était de la distribution de jeux, des jeux notamment de Amstrad et Atari.
Amstrad, sachant que Amstrad, par rapport à d'autres territoires, notamment dans le monde et même en Europe, la France a vraiment été à cartonner sur Amstrad. Hein. C'était, ouais. un des pays où Amstrad était le plus.
C'est un plus implanté, quoi.
C'est plus implanté, plus que par exemple l'Atari, quoi.
D'accord. Et du coup, pendant quelques années, effectivement, ils vont surtout faire de la distribution avant de se lancer dans le développement de leur propre jeu.
C'est ça.
Et dans les années 80, toujours. Et puis, voilà. Enfin, si on. Partait sur l'historique réellement, morceau par morceau d'Ubi, on en a vraiment pour une heure, je pense.
Commençons par à partir de quel moment où les gens autre que en France, vraiment dans le monde, où ça commençait à vraiment marcher, sachant que pour moi, c'est vraiment l'arrivée d'une icône qui s'appelle Rayman.
Ouais, tu penses que c'est... Ah oui, effectivement.
Qui est arrivé en 95, hein, c'est ça.
95,
et ça a été pour moi le premier gros succès international de Ubisoft, et surtout une production interne Ubisoft.
Oui, effectivement, donc le Rayman de Michel Ancel,
oui,
qui est lui aussi une figure de l'histoire d'Ubisoft, de l'histoire du jeu vidéo français.
Complètement.
De pas mal de choses en vrai. Et puis, oui, effectivement, Rayman qui préfigure finalement l'entrée en bourse d'Ubisoft, par exemple.
C'est ça.
Un an après, enfin, il y a eu un certain nombre de choses. 97, donc 2 ans après Rayman, c'est l'ouverture d'un premier studio sur le continent américain.
Donc Ubisoft Montréal, si tu peux.
Ubisoft Montréal au Québec, effectivement. Grâce évidemment la politique locale pour attirer, j'ai envie de dire, tout ce qui est un petit peu technologie, qui a beaucoup servi finalement au développement du jeu vidéo, de la production de jeux vidéo.
En général. Hein.
Voilà, au Québec. Avec effectivement des crédits d'impôt, ce genre de choses. Enfin, il y avait vraiment une vraie volonté. Et ça va vite, en fait, derrière pour Ubisoft, parce qu'il crée également des studios au Maroc, en Italie, en Espagne, à Hong Kong, enfin bref.
En Inde aussi.
En Inde, ensuite.
Beaucoup en Europe aussi, pas mal de nearshore, vu qu'il y a Ubisoft en Bulgarie, en Roumanie aussi.
Voilà, mais après, il y a les distributions, éditions, studios réellement de production.
Voilà, et quand on parle de Ubisoft, pour le coup, en France, on parle beaucoup de Ubisoft Montpellier,
ouais.
Parce que les Rayman sont surtout faits par là.
Ubisoft Montpellier, vraiment, voilà. Si tu regardes un petit peu les gens qui sont sortis d'Ubisoft Montpellier, ont fait plus de bruit. Je dirais ceux qui sont sortis des autres studios.
C'est vrai.
C'est peut-être un des plus anciens, Montpellier, non ?
Oui, je pense. Hein, c'est en tout cas, c'était. Enfin, ça a toujours été présenté comme la partie créative.
Ouais.
La partie créative, l'âme, entre guillemets, d'Ubisoft. On en reparlera plus tard sur le côté.
Ce qui est devenu l'âme d'Ubisoft ?
Oui, We Are Ubisoft, tout ça. Mais ça, c'est plus tard. Alors, peut-être qu'on parlera pas de la partie We Are Ubisoft de Vivendi, tout ça. Mais.
Il va falloir faire des choix.
Mais c'est vrai que c'est une partie très, très intéressante de l'histoire d'Ubisoft.
C'était intéressant, effectivement. C'est la grosse difficulté en fait d'une histoire aussi riche qui date donc, qui a commencé dans les années 80. Les années 90, il y aurait déjà pas mal de choses à dire.
Parlons des grosses franchises.
Voilà, je pense que c'est déjà. Ça va parler. De toute façon, ça va parler. Tu as évoqué évidemment Rayman.
Oui.
Où il y a eu quand même un certain paquet de jeux.
Donc Rayman, les Rayman classiques et puis son extension, les Lapins Crétins.
Voilà. Les Lapins Crétins qui ont un autre public,
oui,
une autre cible, mais qui a des sacrés succès également.
Cartonné aussi.
Sacré succès. Si on parle plus des jeux qui vont vraiment parler aux gens qui jouaient déjà dans les années 80.
Ok.
Prince of Persia.
Oui. Alors Prince of Persia, sachant qu'à la base c'était du Jordan Mechner, et ils ont racheté la licence,
voilà,
et pour la développer très fortement au milieu des années 2000.
Tout à fait, avec les Sands of Time,
La trilogie qui va avec, et puis jusque, ouais, même il y a un jeu qui est sorti même l'année dernière de Prince of Persia.
Cette année, non?
Peut-être en début d'année, mais bon.
Evil Empire.
Hein?
Le
Ah oui, d'accord, ok.
Le Metroidvania par Evil Empire.
Ah oui, non, je parlais du Metroidvania.
Interne.
En interne, oui.
Oui, avec qui proposait une langue en farsi.
Oui,
pour,
voilà.
Pour
oui, celui qui s'est vendu à 5 exemplaires lui aussi.
Mais qui a eu une belle reconnaissance,
oui,
de critique.
Mais bon, ça, on en parlera plus tard.
Voilà. Donc on avait ça. Alors, comment ne pas évidemment évoquer la licence qui symbolise pas mal de choses pour Ubisoft en vrai.
Assassin's Creed. Évidemment.
C'est les années, fin des années 90, début 2000?
Le premier, c'est 2007.
Ah, c'est aussi vieux que ça?
Ouais, c'est 2007.
Okay. Moi, je vais jouer ça plutôt début 2000, tu vois.
Non, c'est 2007, okay, pour le premier.
Ouais, effectivement. 2007 pour le premier. 2023 pour le dernier en date.
Voilà.
Mirage.
Et prévu 2025 pour le prochain à venir.
Oui, et on en reparlera parce qu'il n'était pas prévu pour 2025.
Il était prévu pour plutôt.
Il était prévu pour tout à l'heure.
Dans un mois.
pour tout à l'heure, un petit peu plus tard. Là.
Voilà.
Donc ouais, on a ça, on a les Far Cry dont ils ont récupéré également un petit peu comme pour les Prince of Persia, pour ils ont récupéré à partir du 3.
Du 3, oui.
Ouais.
Qui a été un immense succès pour.
C'est ça. Le 1 était déjà monstrueux. Le 2 avait moins touché son public, il tentait autre chose.
Le 3 a créé
le
une formule.
3, le oui. A créé une formule que Ubisoft a développée sur les suivants, parce qu'on est déjà au 6,
voilà.
Il y en a eu 3 de voilà. plus.
Et a développé sur d'autres jeux aussi.
Exactement, qu'ils ont, on va dire, t'as d'autres jeux, d'autres licences qui sont clairement des spin-offs de la formule Far Cry. Je pense à Watch Dogs.
Oui.
Par exemple. Même s'il y a eu moins de jeux.
Oui, oui.
Mais
oui.
La logique de monde ouvert avec,
avec
des trucs à foutre partout. Comme ça, là, on va l'évoquer parce que ça nous parle moins, mais c'est clairement quelque chose. C'est pareil en termes de, brassage de pognon. Je pense qu'on est pas mal. La licence Just Dance.
Oui, Just Dance, beaucoup, beaucoup d'argent hein, sur les Just
quand
Dance.
Même.
Hein.
Quand même,
beaucoup de sous sur les Just Dance et ne pas oublier en fait toute la partie Tom Clancy.
Exactement, voilà. Tom Clancy qui va devenir finalement une entre les quoi. Tom Clancy c'est la source des Splinter Cell aussi.
Oui, alors ne pas oublier. Alors Tom Clancy c'est un.
Oui, pardon, vas-y.
C'est donc un écrivain qui a écrit beaucoup de bouquins, notamment durant la période de la guerre froide,
ouais.
Avec une idéologie qu'on va dire.
T'as envie de le dire extrême droite, hein?
Je veux pas dire extrême droite, je veux dire.
T'as envie de le dire?
J'ai envie de dire que Reagan aimait beaucoup.
Oui, oui, voilà. Ouais, voilà. Donc on était clairement dans la valorisation, dans la mise en avant de. D'une idéologie, enfin voilà. Du camp du bien.
Bah voilà. Hein. Bah typiquement, par exemple, au-delà des jeux Ubisoft, Jack Reacher, ça fait partie de ça.
Ouais.
Voilà. Mais en gros, le côté la fin justifie les moyens. Clairement, on est sur ce truc-là. Typiquement, par exemple, une série comme 24 avec toutes les problématiques qu'il y a dedans, c'est pas eu Tom Clancy, mais ça aurait pu être écrit par Tom Clancy au vu de la manière très expéditive et radicale et
dont on gère les problèmes, dont on règle les problèmes.
Voilà.
Et oui, donc clairement, c'est l'héritage.
Donc
c'est l'héritage.
Donc de tout ce qui est Tom Clancy a été créé donc les Splinter Cell à la base qui était la première entrée, mais il y en a eu beaucoup.
Alors, il y a eu les Rainbow Six avant.
Rainbow Six
c'est 98.
Ah, le premier Rainbow Six, oui, c'est ouais. Vrai, le Rainbow Six de 98, je me souviens.
Ghost Recon 2001.
Oui.
Et le premier Splinter Cell 2002.
Oui, Splinter Cell 2002 aussi. Et puis.
Après, donc, c'est des séries qui vont se découler.
Voilà,
et
les Ghost Recon, les The Division.
Ouais, voilà, jusqu'à The Division, qui est finalement une représentation exacerbée finalement de tout ce que tu viens de dire.
Oui.
T'as
pas cité X-Defiant, je suis déçu.
Non, parce qu'on c'est plus tard. on va pas avoir le temps. Non, par contre, vite fait quand même. Effectivement, ils ont quand même racheté un certain nombre de franchises au fur et à mesure du temps. On le disait déjà. On peut parler des Heroes of Might and Magic.
Oui.
Par exemple, donc ils ont effectivement enterré tout le génie créatif et intéressant quelques couches de merde.
C'est vrai que tous les jeux Heroes of Might and Magic auxquels j'ai joué, donc le 2 et le 3,
c'était bien avant eux.
C'était avant Ubisoft, donc pour moi, voilà. C'est vrai que j'arrive pas à l'associer. Mais par contre, Settlers, c'est eux.
Alors, Settlers, c'est pareil, c'est pas aussi vieux. Ça se passe dès les premiers.
Oui.
Mais effectivement, aussi, hein, ils ont fini par flinguer la série Settlers avec le dernier qui est sorti l'année dernière.
Ils ont pas flingué les Anneaux, par contre.
Non. Anneaux, c'est une des séries que, pareil, je crois pas qu'ils étaient au-dessus dès le début. Mais ils ont fait du très très bon taf, en tout cas, en tant qu'éditeur, avec le dernier en date. Et j'ai envie de dire les deux, trois derniers. Enfin, il y a eu des idées intéressantes, mais surtout le dernier, le Anno 1800.
Oui,
et la quintessence du truc, ils sont allés au bout du projet.
La preuve, c'est que les gens sont très intéressés par le prochain à venir.
Ouais, l'anneau 107, qui devrait se passer, 117, pardon, autant pour moi, qui devrait se passer à l'époque, donc, de l'Empire romain. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces grandes on a les Silent Hunter, mais c'est un peu plus
Après, là, je pense qu'on a fait le tour des très gros, en fait.
On peut citer Trackmania.
Oui, alors,
quand
la
même.
Partie Nadeo, donc...
Par exemple, oui.
Okay.
On peut citer Trackmania, on peut citer Léa Alexandra Lederman, si on veut vraiment parler encore une fois de brassage de pognon. Oui. Là, je pense que c'est quand même des séries...
Ouais, comme les Just Dance, c'est du grand public.
Exactement.
Pas traité dans la presse spécialisée, mais qui fait de la thune.
Voilà, Rocksmith.
Aussi.
Même principe. The Crew.
Alors ouais, The Crew aussi, pour le coup.
Ça méritera qu'on en reparle, mais
oui,
ça s'est bien passé.
Hein. Beaucoup beaucoup fonctionné. Hein,
ça s'est très bien passé. Ouais. Et puis dernier quand même à citer, je trouve intéressant à citer, Beyond Good and Evil.
Un excellent jeu. Alors
2003.
C'est un jeu vraiment qui est cher à mon cœur et qui est cher au cœur de beaucoup de gens qui ont joué à l'époque en tout cas parce que en fait il faut remettre ça dans le contexte. C'était un open world qui proposait beaucoup de gameplay différents et qui était très original, en tout cas par rapport à ce qu'il proposait, Sachant que et c'était une proposition entre guillemets family friendly par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur du GTA 3 par exemple sur en parlant
d'open world voilà, avec la liberté de faire des choix enfin de s'intégrer dans l'univers et puis quelques petites tentatives dont on a déjà parlé dans cette émission et qu'on appréciait beaucoup toi et moi, Soldat Inconnu.
Oui, alors en fait le truc c'est que là c'est peut-être le moment de parler aussi de cette l'image aussi qu'a eu pendant longtemps Ubisoft, qui était d'un côté des grosses franchises avec des gros blockbusters, mais aussi des tentatives qui... Alors, le terme indé n'existait pas encore à l'époque, mais avec des tentatives plus petites de jeux, en fait.
Mais qui n'avaient pas le même projet
et pas le même profil.
Les mêmes auteurs non plus.
Oui, typiquement, quand on parle de Child of Light, par exemple.
Moi aussi. Ouais.
Voilà. Ou de, enfin en tout cas d'autres propositions de ce style-là et qui n'hésitaient pas en fait à faire des jeux de moindre envergure parce que en fait ils y croyaient. D'ailleurs il y a pas mal de jeux signés Michel Ancel qui étaient dans cette veine-là. Alors même s'il était un gouffre à pognon. Un Heart of Darkness, par exemple.
C'est plus vieux, effectivement. Je crois que c'est les années, enfin, les années 90.
C'est 99 dans lequel il est sorti. Alors, gouffre à pognon, certes. Oui. Mais en fait, en termes juste de proposition ludique, c'est un truc beaucoup moins ambitieux.
Bah, c'est ça. C'était Ubisoft pendant longtemps. De l'extérieur, c'était des énormes blockbusters. Mm-hmm. Vraiment des machines à cash. Mm-hmm. Et des petites tentatives, par-ci par-là, de proposer quelque chose. Finalement, pour moi, un petit peu, je dirais, dans l'esprit, Rayman, oui, en soi, c'était pas un concurrent à Sonic, à Mario, à ce genre de truc, c'était dans le projet. C'était un petit truc qui a pris une ampleur, je pense, qui était pas celle qui était envisagée à l'origine, je pense.
Oui, je pense que
aujourd'hui, c'est un personnage complètement iconique du jeu vidéo français, mais du jeu vidéo tout court.
Oui, parce que maintenant, en fait, justement, avec des licences aussi grosses, on parle d'Ubisoft, quand on parlait de l'E3, ou en tout cas de la fameuse grand-messe de juin, où tu as tous les gros éditeurs qui arrivent, tu avais les conférences consoles, donc conférence Nintendo, conférence Sony, conférence Xbox, mais tu avais aussi les conférences éditeurs et tu avais forcément la conférence Activision et la conférence Ubisoft qui était très très attendue.
Oui, carrément. Donc, mais du coup, on va avancer dans le temps, j'ai envie de dire, et dans la structure.
Si tu veux, on peut aller jusqu'à 2019. Allons 2017-2018, parlons de crise de management.
C'est à peu près à cette époque-là que ça sort ?
Oui.
Je crois que les enquêtes, c'est 2020.
Oui.
Mais bon, mais visiblement,
les premiers échos, parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que vu l'importance et la porosité globale entre Ubisoft interne, en tout cas en France, et Ubisoft le monde du jeu vidéo de manière générale.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui en viennent, qui en sortent, qui reviennent.
Donc, il y avait déjà des choses qui se disaient. Donc, déjà 2017-2018, il y avait déjà des échos comme quoi il y avait certains gens certaines personnes qui étaient assez infréquentables. Et puis, il y a eu les premières enquêtes déjà
de
2019-2020.
C'est ça, 2020, que ce soit Libération, que ce soit. Ils ont été un certain nombre de médias à s'y intéresser. Mmh. Et il y a effectivement des vrais problèmes, clairement, des vrais problèmes de harcèlement et d'agression sexuelle.
Oui.
Là, on en est là. Enfin, je veux dire, quand on est en fait à essayer de couvrir ce genre de faits, à essayer de garder les gens en place, Serge Ascoët notamment, Tommy François, enfin, ils sont quelques-uns comme ça à avoir été. Tout ça se savait.
Non seulement ça se savait, mais surtout que c'était connu par la direction et couvert par l'ARH.
C'est ça. En mode, oui, mais c'est des créatifs.
Voilà.
On a besoin de ça. Enfin, c'est ça qui fait fonctionner le truc, quoi. C'est ces créatifs-là, donc ils finiront par s'en débarrasser, que ce soit par des départs volontaires, dans le cas de Tommy François.
Ou alors du placard, ou alors on les met dans des endroits où on pense qu'ils feront moins de bruit. Par exemple, chez Ubisoft Singapour, pour un résultat dont on parlera plus tard.
Oui, oui, oui. Alors, qui est pas forcément lié directement
non,
à ça.
Non, mais bon, si c'était.
Il y avait d'autres emmerdes. Il y avait d'autres emmerdes dans le projet développé par Ubisoft Singapour.
Oui.
Ils avaient des problèmes depuis un moment. Mais bref, mais voilà. Donc, ça leur tombe complètement dessus. Et ça entraîne effectivement pas mal de choses, des enquêtes internes. Le départ de Michel Ancel,
oui.
Qui lui-même était cité comme étant quelqu'un, directeur de la création aux méthodes toxiques.
Oui.
Donc voilà, une certaine ambiance, de façon générale quand même, dans le studio. Je dirais un moment où ça sort de façon globale. C'est-à-dire que une époque où on se posait, enfin où c'était normalisé ces comportements, clairement dans le et je pense que le monde du jeu vidéo comme d'autres, d'autres milieux c'est quelques années, quelques mois après les débuts des MeToo et ce genre de choses,
oui.
On était déjà dans une dynamique d'arrêter de supporter des trucs qui étaient intolérables qui auraient dû être intolérables depuis le début.
On a oublié qu'ils avaient récupéré les drivers aussi. Mais
oui, la série, la franchise Driver.
Oui.
Mais voilà, on est dans cette, on va dire dans cette dynamique générale. Et c'est en France, en tout cas, c'est ceux qui prennent le plus.
C'est ça. Et en fait,
c'est parce que c'est les plus gros, peut-être.
On va dire.
Mais aussi parce qu'ils ont toléré beaucoup.
En tout cas, en France, il y avait déjà eu. Alors, on faisait tout à l'heure une petite référence à en gros We Are Ubisoft, qui a été en fait une tentative de rachat d'Ubisoft par des fonds français, mais pas des frères Guillemot. Mm-hmm. Et il y avait déjà eu en fait une polarisation et aussi un sentiment en interne où en fait c'était plus une boîte mais enfin pas loin d'être une religion, mais en tout cas un état d'esprit et un soutien indéfectible à la boîte. Et déjà en France et puis un peu dans le monde entier au final, ça a été pour moi en fait la première dent à l'image de Ubisoft. Ça a été ça, sachant que il y avait déjà des dents, on va dire plus côté joueur, à cause de deux choses, la fameuse vidéo à l'E3 de présentation de Watch Dogs. Qui à un E3 en fait Watch Dogs a été présenté, le jeu avait l'air incroyablement précis, beau. D'une fluidité incroyable, et le jeu est sorti et c'était un jeu classique d'un point de vue finition.
C'était une parfaite illustration du terme downgrade,
voilà.
De qu'on te montre un truc incroyable et qu'en fait on va te... Alors, pas pour les défendre, c'était la mode à l'époque.
Oui, mais eux se sont fait choper de façon assez...
Oui, c'était beaucoup plus flagrant encore.
C'était vraiment flagrant.
Eux. Et notamment parce que finalement, le jeu n'est pas sorti si longtemps après.
Voilà, et en plus...
Ça a joué, t'as des trucs où les jeux ils sortaient 6 ans après, ils avaient le temps en fait, de faire en sorte que le jeu il ressemble à ce qu'ils avaient promis.
C'est
quoi.
Ça, et il faut voir aussi que la sortie c'était pas si longtemps avant ou après la sortie de Unity, de Assassin's Creed Unity.
Oui, qui est arrivé dans un bel état. Lui,
dans aussi. Un état absolument scandaleux, avec des bugs absolument immenses. Et donc, en fait, il y avait déjà un accro au niveau du public sur l'image d'Ubisoft, mais uniquement au niveau de la qualité des jeux. Et enfin, pas pour dire que les jeux étaient pourris, mais de l'image globale d'Ubisoft en tant qu'entreprise permettant faisant des jeux super.
Ouais.
Et t'as eu un commencement sur l'image publique d'Ubisoft sur avec justement ces affaires de viol et de harcèlement et qui a retenti aussi dans la presse internationale, vu qu'on en a parlé aussi donc sur à l'époque sur IGN, sur Kotaku, sur Eurogamer, enfin sur tous ces trucs qui existaient encore.
Sur les trucs officiels, bah Kotaku existe toujours, IGN aussi. De quoi tu parles?
Punaise.
Comment ça, c'est le même groupe maintenant? Pardon. Non. Non, mais oui, c'est effectivement, il y a eu une, on va dire, il y a un petit basculement, même si effectivement le certaines licences continuaient de fonctionner très fort.
Alors, en termes, alors ça, c'était un basculement au niveau de l'image, mais par contre, non, au niveau thune, ça allait très bien. niveau oui, thune, oui, niveau oui. production, le système...
Ils sont passés aux 2 milliards de chiffre d'affaires, ils les ont passés en 2020.
Donc, oui, voilà, donc non, ça allait très bien à ce niveau-là, c'était pas le souci. Et sachant que le 2020, c'était vraiment l'époque où Ubisoft, c'était vraiment full Tom Clancy, c'était full Tom Clancy, hein. Où ça sortait les Ghost Recon Wildlands, les Rainbow Six Siege qui étaient mis en avant à fond, les fameux jeux, le pré X Defiant qui avait été annulé.
C'est difficile de dire que ça fonctionnait du coup. Mais...
le pré X Defiant qui était annulé. Mais bon, voilà, c'était en 2020. Mais... 2020 allait bien. D'ailleurs, ils étaient tellement confiants qu'ils avaient fait ce fameux deal avec Epic.
Oui, alors juste avant.
Oui,
c'est 2019.
Justement, ils avaient fait ce deal avec Epic parce qu'ils étaient en mode tout marche.
Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, un deal finalement dont on n'a jamais réellement eu de réelle confirmation. J'ai envie de dire, enfin, j'ai pas vu moi quelque chose de particulier, mais.
Il consiste en quoi ce deal ?
Alors globalement, attends que je reprenne. Ouais, donc c'est pour The Division 2, le premier, qu'ils ont donc sorti en exclusivité sur l'Epic Games Store et sur leur store à eux. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de vendre sur Steam, mais ils avaient malgré tout leur store. C'est quoi ? C'est Uplay.
Uplay.
Donc voilà. Clairement, en français, ça correspond bien. Tu vois, c'était vraiment une plaie à utiliser. Je pense que pour tous ceux qui l'ont utilisé, ils y comprennent très bien de.
Alors maintenant, ça s'appelle Ubisoft Connect, mais, pendant très longtemps, ça a été Uplay. Voilà, et ça a changé de nom. Quoi.
C'est pas mieux, globalement. Mais effectivement, en fait, ils avaient fait le choix de partir, enfin, de faire un deal avec l'Epic Game Store. Donc l'Epic Game Store, qui venait d'arriver sur le marché.
Du PC.
Avec du PC, effectivement.
Uniquement.
Qui proposait donc de rémunérer à hauteur de. Enfin, de ne prendre que 12% de commission sur les ventes. Quand Steam, qui était quand même le mastodonte, qui l'est toujours, prend 30% sur les ventes à l'époque. À l'époque, d'ailleurs, Chris Hurley, le vice-président senior d'Ubisoft chargé des partenariats et des revenus, avait déclaré ce deal comme irréaliste. Alors, il existait depuis des millions d'années, entre guillemets. On en a déjà parlé, en fait, c'est le même deal qu'on a sur le Google Store, sur l'Apple Store. Enfin, c'est un deal qui n'était pas surprenant dans l'industrie, le 30%. Ce qui était intéressant du côté d'Epic, c'est d'arriver en disant nous on prend moins.
Du coup, la position de Ubisoft de dire on met tout sur Epic, sur le marché PC, où de toute façon, de base, ils n'étaient pas forcément les plus forts parce que c'est plutôt un éditeur qui est orienté console.
Oui,
la majorité des
gros succès.
C'est pas déconnant en soi.
Non, ça pouvait avoir du sens. Maintenant, ça s'est fait, on va dire, de façon un peu sale. Pas dans le cas de The Division 2 parce que. Ils n'en avaient pas parlé plus que ça. Enfin, ils sont arrivés en disant « Ok, voilà, maintenant le jeu il sera comme ça ». Ça a été plus compliqué pour Anno 1800, par exemple, où il y avait déjà eu des précommandes. Le jeu était déjà en vente sur Steam et ils l'ont retiré, entre guillemets, au dernier moment. Donc bon, ça avait été moins bien vécu parce qu'il y avait déjà une présence.
Après, pas si sale parce qu'ils ont remboursé toutes les précommandes aussi.
Les gens qui les ont achetés, ils l'avaient sur Steam. Pendant quelques années, il y a des gens qui l'avaient payé en 2019, voire 2018, en préco, étaient les seuls à pouvoir y jouer sur Steam. Donc ils avaient quand même honoré cette commande-là.
Oui, donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas assez sale, c'est soudain. Pas sale.
C'est soudain et en fait, il y avait le côté revirement.
Oui, bah, donc pas sale, ce qui était pas c'est juste soudain. Quoi.
C'est du deal, c'est du commerce.
Voilà.
Mais c'était pas le cas pour The Division 2, par exemple. Ils sont arrivés en disant, voilà, maintenant, celui-là, on le proposera comme ça. Enfin, c'est différent, si tu veux.
Tu remarqueras que ça a beaucoup moins gueulé pour The Division en soi.
Oui, peut-être parce qu'il était moins attendu. D'ailleurs, il a quand même pas super bien marché, le 2.
Il a quand même pas mal marché, mais c'est surtout aussi parce que, de toute façon, Epic ou Steam, de toute façon, fallait passer par Ubisoft.
Il y avait quand même le lien... Ubisoft Connect ou Ubiplay ou Uplay.
C'est-à-dire que t'aimes pas Epic, y a pas de souci, achète-le sur Ubisoft Connect. De toute
t'avais
façon,
quand même besoin
t'es obligé,
d'un compte.
T'es obligé de passer par Ubisoft Connect.
Oui, mais en fait, au lancement, en vrai, hein, quand t'as un jeu Ubi sur Steam, tu lances le jeu, t'as une sous-couche Ubi Connect qui arrive, et puis tu rentres tes coordonnées, point barre, quoi, ça prend deux secondes.
Oui, enfin bon.
La sous-couche n'était pas particulièrement. Violente, je dirais. Enfin, moi, je l'ai jamais trouvé à usage, personnellement. J'en ai pas tant que ça, des jeux Ubi. J'ai des Far Cry, j'ai du Anno, mais j'en ai moins que peut-être toi, par exemple.
Ouais, c'est possible.
Où t'as été peut-être plus. J'ai pas d'Assassin's Creed,
gros
par
fan,
exemple.
Gros fan. Toi, j'ai été un gros fan des jeux Ubisoft pendant un bon bout de temps, ouais.
Voilà.
Et je joue que sur PC, donc.
Et tu vois, et je te parle quand même. Bon. Voilà.
Type. Exactement. La suite.
Mais voilà, donc ouais, il y a eu cette, effectivement ce début de ce choix, on va dire clairement marketing voilà. et stratégique.
Alors à l'époque, pareil, hein, ça fait partie aussi de Epic a été assez mal accueilli par
l'écosystème par des joueurs,
par l'écosystème des joueurs PC.
Oui, parce que les autres, de toute façon, n'étaient pas concernés.
Soyons clairs, la plupart des gens n'en ont strictement rien à foutre. Hein.
Bah non, parce qu'ils ne jouaient pas sur PC.
Voilà, mais pour les joueurs PC, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de...
Il y a eu la méthode.
Il y a eu
la façon de faire.
Epic, c'est le mal, tout ça, bon.
Voilà. Il y a eu la... Encore une fois, hein,
c'est les Chinois du FBI, bon.
Il y a eu on en avait parlé pendant l'épisode où on avait fait, je dirais, précisément sur Epic,
ouais.
Où c'est la façon d'arriver.
Oui,
et
voilà.
La façon de dire, oui, ce qui se passe... Steam, c'est dégueulasse, machin, c'est des voleurs. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées, et en même temps, eux venaient prendre des trucs qui étaient déjà prévus de sortir sur Steam, en mode on vous file plus de pognon, donc vous sortez pas là, mais vous sortez que chez nous. Tout ça, finalement, avait joué.
Mais Ubi
n'était pas vraiment lié. Enfin, voilà.
Un petit coup de dent à l'image, pas énorme, mais un petit coup de dent à l'image.
Ouais, enfin, ça faisait partie d'un ensemble.
Par contre, là où on a eu plus de gros coups de dent à l'image, on est en 2019, donc que 2 ans après, hein, avec l'arrivée de Quartz.
Ils sont rentrés les trois pieds, les deux pieds, les deux mains, la bouche en premier dans le délire des NFT.
Voilà.
Et en fait, ils sont allés à fond.
C'est ça. En fait, ils ont Quartz. En fait, c'était censé être une plateforme qui allait permettre de rajouter des mécaniques de NFT dans n'importe quel jeu Ubisoft, la fameuse promesse des NFT, que on pourrait posséder une partie du jeu, que on pourrait qu'on pourrait la modifier, qu'elle nous appartiendrait que à nous, et qu'on pourrait en tirer une valeur financière. On sait ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que actuellement les NFT, pour 99% des NFT, ne valent rien. Et quand je dis rien, c'est pas une figure de style, c'est rien.
Oui, c'est ça. On doit être en dessous de zéro.
Voilà.
Et
le problème, c'est qu'ils l'ont, comme exactement ce dont tu parlais avec Epic, ils y sont allés franco en voulant mettre ça à la truelle.
Ouais. Et puis
longtemps. Contre l'avis des équipes en interne.
En plus.
Ce qui a fait pas mal de bruit, vu que, comme on l'a dit, les équipes en interne parlent beaucoup, 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 même plus que dans les autres boîtes, aux journalistes et à la presse spécialisée. J'ai l'impression,
on entend beaucoup souvent. Ouais,
oui, d'ailleurs,
souvent
c'est même un running gag. En gros, c'est chaque année, c'est alors la fuite d'Ubisoft, ça va être quoi? Parce que c'est voilà, par rapport aux autres boîtes, Ubisoft a beaucoup plus d'employés que les autres boîtes. On y reviendra après à ce modèle et a beaucoup plus de fuites que beaucoup d'autres boîtes, ce qui fait que
mathématiquement
voilà, et que quand ils prennent des décisions qui sont
pas forcément validées en interne,
et là c'était pour le coup d'habitude, je sais que on pourrait dire il y a 2-3 grincheux, alors ils ont gueulé. Non, là en fait souvent on a accès, en fait ils ont un réseau social en intérieur en interne pour discuter, et c'était pas du 50-50 quoi, c'était vraiment en gros le top management qui dit on y va, et tout le monde derrière qui dit arrêtez vos conneries.
C'est ça.
Et donc ça pas bien joué non plus dans l'image du Ubisoft, surtout que au niveau des joueurs, le NFT ça a jamais pris
hein. À part chez quelques crypto bros
mais le Web3, tout ça,
voilà.
Non, à part des gens qui veulent rejouer à Flappy Bird, honnêtement.
Pas que, par des gens qui ont fait croire qu'on peut gagner de l'argent en jouant à des jeux. Et Peter Molineux. Mais Peter Molineux, lui, il a eu raison. Parce qu'il a ramassé du pognon avec ça. Lui, c'est peut-être le moins con dans l'affaire.
Oui, non, mais Peter Molineux, il a fait ce qu'on appelle une Chris Roberts. Mais vas-y, continue.
Ouais, voilà. donc on a ça, on a... derrière, on a effectivement un certain nombre de projets, de gros projets, gros profils. Mmh. Qui fonctionne pas forcément aussi bien que espéré.
Oui, alors il y a alors avant ça, en fait, déjà faut voir que étant une grosse boîte, il y a eu notamment entre 2019 et 2000 et encore aujourd'hui, un nombre de projets annulés hallucinant.
Oui, ça va être difficile de faire la liste parce qu'effectivement...
Bah justement, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas.
On sait juste qu'ils ont des trucs ont été annulés, que des gens ont travaillé sur des projets.
Et la problématique en fait, de ces projets annulés, c'est que ça mobilise du monde, ça prend du temps. Et avant de s'apercevoir que ça ne marchera pas, souvent, il y a plusieurs mois de production. Et avant de constater que ça marche pas, sachant que il y a le poids derrière d'un autre projet qui est encore en cours, et justement qu'on a laissé avancer en disant maintenant il est trop gros, on peut plus annuler, qui s'appelle Beyond Good and Evil 2.
Oui, alors c'est un serpent de mer à ce niveau, c'est le monstre du Loch Ness.
Oui,
on sait même pas s'il existe. Alors, il y a des gens qui disent il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui disent si, je te vends une photo si tu veux. Enfin, on en est là. Hein.
Le truc, c'est que on parle d'un jeu donc qui est en prod depuis quoi, 14 ans maintenant, même plus, 15 ans, ouais. Pas loin de 20.
Va savoir.
Bah, c'est pas compliqué.
Va savoir.
En fait, c'est pas compliqué. Le premier est sorti en 2003 et je pense que la prod du deuxième a dû commencer peut-être en 2005 à tout casser.
La prod de quoi ? Enfin, je...
Et alors pour le coup,
on a vu des choses.
Pour le coup, c'est pas. On a eu des choses assez régulièrement, mais surtout on a eu des rapports de Ubi Montpellier qui disaient qu'en gros, à part 2-3 personnes, 75% de Ubi Montpellier a bossé sur un jeu qui s'appelle Beyond Good and Evil 2 et qui a broyé un sacré paquet de gens parce que à force de travailler pour un truc où on se dit mais ça sortira jamais, c'est vrai que ça démotive beaucoup. Ça en fait pareil, ça a été un gouffre financier et un poids sur les autres projets où pour le coup on prenait beaucoup moins de risques sur les autres projets. Parce qu'on se disait, oulala, si on fait pas gaffe, ça va devenir comme Beyond Good and Evil 2. Et ça a commencé à beaucoup peser, notamment au niveau quand le Covid est arrivé. deux derniers points avant qu'on arrive à la
à une période plus récente.
Un premier point de Ubisoft, c'est tellement c'est mal démerdé en termes de communication pour être désigné comme l'éditeur qui était le chantre du fait que les gens ne possèdent plus leur jeu. Grâce à une communication stupide, on va pas dire les choses autrement.
Qui est très récente aussi, hein, début de l'année.
Ouais, début de l'année, ouais. Mais il y avait déjà des échos auparavant hein, de ça. En fait, le principe, c'est que c'est des choses dont on a déjà parlé dans l'émission auparavant. Mais en gros, ce qu'il faut pas oublier, c'est que à partir du moment où vous n'avez pas un jeu en physique, mais en dématérialisé, vous ne possédez aucun droit sur ce jeu. Vous possédez une licence d'utilisation du jeu. Et ça, en fait, les éditeurs le savent et l'ont bien compris. En général, ils ferment leur gueule sur le sujet parce qu'ils savent que c'est un sujet.
Ouais, ça passe pas très bien.
Qui passe pas très bien. Et là, en fait, il y a plusieurs personnes du top management de Ubisoft qui avaient déclaré que le futur était que les gens ne possèdent pas leur jeu, mais n'aient qu'une licence des jeux.
Alors, il y avait une logique à leur offre. En fait, puisqu'ils
étaient à fond jeu service à l'époque, donc c'était assez.
Et pas seulement
assez logique.
Abonnement.
Oui, aussi.
Aussi, ils proposaient leur abonnement.
Il y a un abonnement Ubisoft.
Voilà, on s'abonne tous les mois, on paye une certaine somme et on a accès à tout le catalogue Ubisoft.
Oui, il y a, en Allemagne.
Et du coup, il y avait une logique. Il y avait une logique à présenter ça comme effectivement quelque chose que tu ne possèdes pas, quelque chose que tu peux profiter le temps que tu le payes.
Le truc, c'est que par exemple, c'est le cas si vous êtes sur Netflix, tout ce que vous regardez, vous le possédez pas.
C'est pareil pour le Game Pass.
Tant que
tu es abonné, tu as accès à tout.
C'est juste que les gens qui ont mis ça en place ont été assez malins pour pas dire vous possédez rien, mais pour dire regardez, vous avez plein de trucs.
Voilà.
Mais en termes de communication, vous en étiez juste nul et stupide.
Ça. Et fallait peut-être pas le faire dans ce sens.
Et donc maintenant, en fait, pour beaucoup de suiveurs du jeu vidéo de plus ou moins loin, les gens qui ont dit en premier il faut pas que les gens possèdent leur jeu, c'est Ubisoft. Alors qu'en vrai, c'est un fait depuis extrêmement longtemps.
Oui, c'est documenté, c'est ce que tu veux. Et en plus de ça, très peu de temps après, on a eu l'affaire The Crew.
Oui.
Avec donc un jeu qui s'est sorti il y a une quinzaine d'années, le premier The Crew, je sais plus exactement la date, mais où effectivement
le premier doit dater de 2010 ou un
truc. Ouais, voilà. Où le jeu donc était c'est un jeu de voiture dans lequel on pouvait avoir accès à un certain nombre de circuits, enfin en gros dans le monde.
Oui.
Et pour lequel il fallait te connecter.
Connexion obligatoire. Le seul truc où il n'y avait pas besoin d'être connecté, c'était la démo à l'époque.
Et du coup, vu que connexion obligatoire, serveur du côté d'Ubi. Et puis, vu qu'ils ont sorti The Crew 2, Puis The Crew Motorfest, entre-temps, ils ont dit, ok, bah, c'est bon, The Crew, on ferme.
Ouais, alors, il y a d'autres raisons, mais bon, ça c'est, mais on va pas l'expliciter ici.
Oui, voilà, mais ça faisait partie de la communication autour de la raison.
En tout cas, s'ils ont fait The Crew et The Crew Motorfest, c'est parce qu'ils savaient que The Crew avait une date limite, on va dire.
Oui, enfin, ils avaient aussi décidé, puis voilà. Mais toujours est-il qu'ils ont effectivement fermé, donc les gens qui avaient acheté le jeu ne pouvaient plus tout simplement y jouer, enfin, le jeu n'était tout simplement plus disponible. Et pas du jour au lendemain, mais quasi, et c'est très mal passé.
C'est très mal passé.
Au point que ils ont donc pour The Crew 2 et The Crew Motorfest, ils ont déjà communiqué.
Oui.
Il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, en disant il y aura des versions jouables hors ligne. On va, en gros, les jeux seront toujours disponibles pour ceux qui les ont achetés. On trouvera une façon de rendre les jeux, enfin de laisser les jeux disponibles pour ceux qui les ont achetés à l'époque.
Voilà.
Et par voie très indirecte, donc ça a lancé le mouvement Stop Killing Games, précisément l'affaire The Crew.
Oui.
Et jusqu'à une décision de justice dans l'État de Californie aux États-Unis, qui aujourd'hui oblige vraiment uniquement dans l'État de Californie les vendeurs de jeux qui vendent des licences d'utilisation.
Oui, à préciser de façon explicite que si le jeu n'est utilisable qu'avec une connexion obligatoire, en fait, ils ne peuvent pas utiliser les mots qu'on achète le jeu.
Ouais, c'est
ou qu'on se procure
en
le
gros,
jeu.
C'est une location. Voilà.
Ça.
Ils sont obligés de le présenter comme ça et de le déclarer comme ça.
Ouais.
Donc, c'est un vrai changement aussi. Bon, c'est uniquement sémantique et c'est uniquement géographique, puisque c'est uniquement en Californie. Mais va savoir à quel point ça ne servira pas de base pour d'autres évolutions.
Pour revenir sur Ubisoft, c'est encore un accro à l'image, un de plus.
Oui.
Sans compter les nombreuses grèves en France qu'on vous a relatées et qu'on continuera de vous relater parce que
c'est pas fini.
Parce que vous inquiétez pas, c'est pas
et
fini.
Et c'est pas fini.
Parce que c'est vraiment pas fini.
Ah, parce vite fait, le STJV effectivement a relayé l'appel à la grève des entités françaises d'Ubisoft pour le 15, 16 et 17 octobre.
Oui.
Donc c'est dans 10 jours.
Oui.
Pour une raison très simple, c'est que la direction d'Ubisoft veut imposer le retour au présentiel au bureau à hauteur de 3 jours par semaine, pour tous et pour toutes, alors que ils avaient donc mis en place un certain cadre de télétravail, notamment pour des raisons de Covid évidemment à l'époque, mais aussi il y a plein de raisons qui font que le télétravail était resté en vigueur dans certaines boîtes, et ceux qui notamment avaient construit leur vie géographiquement loin des bureaux physiques, parce que ça ne les empêchait pas de travailler. Et donc en fait, il y a une vraie décision unilatérale de revenir sur ces accords, enfin sur ce fonctionnement, ce qui entraîne effectivement, qui va avec dans un contexte général de négociations, conditions de négociation lamentables, proposition de la direction inacceptable, lors des négociations salariales de février.
Oui, pendant
les NAO de février.
Ça, on en avait parlé en février.
Voilà. Exactement. Et du coup, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que on va vers une grève le 15, 16, 17 octobre chez Ubisoft.
Et vu le futur de la boîte, ce ne sera pas la dernière. Nous sommes donc en 2024.
Oui, et il s'est déjà passé beaucoup de choses en 2024.
Et c'est passé beaucoup de choses. Alors, déjà, on reparle déjà du bilan de 2023 où tu as eu l'échec de Lapin de Mario plus Lapin Crétin, Spark of Hope, qui a foiré. On a l'échec de Avatar Frontiers of Pandora.
Ouais.
Qui était un Far Cry-like qui a foiré.
Ouais, mais en tant que consommateur, je trouve qu'ils ont foiré leur com. On a très peu entendu parler, en fait.
Vraiment, au-delà du pourquoi.
Ouais. Il y a les résultats.
Il y a les résultats.
Tout à fait.
Il y a le quadruple A Skull and Bones.
Ça, c'est début d'année.
Début d'année. Là,
c'est
on est en 2024. Quadruple A Skull and Bones.
Alors voilà.
Ouille.
Tu parlais des communications.
Ouais.
Guillemot qui arrive en disant voilà, ça c'est le premier jeu quadruple A. Bah, les triple A, donc les jeux AA, ceux qui sont censés représenter le plus haut niveau d'investissement et de budget.
Celui-là, ils ont mis 10 ans à le faire pour un jeu moyenasse, pas de bol.
Ouais, moins bien que ce qu'espéraient les gens qui avaient joué à Black Flag.
Et moins bien que ce que les gens qui jouent encore aujourd'hui à Sea of Thieves.
Ah oui, non, mais Sea of Thieves, il est arrivé entre-temps,
ouais.
Parce qu'ils ont mis effectivement des millions d'années à le développer. Donc, un budget monstrueux à Ubisoft Singapour.
Oui.
Tu le disais tout à l'heure, voilà. Ubisoft Singapour, situation compliquée.
Avec des contraintes très fortes, avec des obligations notamment gouvernementales, avec...
Un turnover monstrueux au niveau de la direction.
Avec la direction. Voilà, avec la direction justement, parce que...
Ils ont changé de directeur.
Parce que ça a été le placard pour beaucoup de gens des affaires dont on parlait plus auparavant. Donc forcément...
Et bizarrement, ça marche pas mieux quand tu les envoies à quelques milliers de kilomètres.
Eh oui. Effectivement.
Mais effectivement, Skull and Bones, incroyable bide en début d'année.
Je sais plus si c'est fin d'année ou si c'est début d'année, Prince of Persia Lost Crown.
Début d'année, je dirais.
En gros, un Metroidvania dans l'univers dont tu as parlé justement en Farsi, etc.
Ouais, 2024.
Pareil. Alors pour le coup, bien accueilli par les critiques.
Ouais, carrément.
C'est vautré comme c'est pas permis en termes de. Mais aussi, en fait, là pour le coup, c'est vraiment un mauvais positionnement marketing. La plupart des Metroidvania sont vendus entre 20 et 30 balles max. Ouais. Celui-là est vendu à 60 euros price.
Oui, et qu'il n'est pas si beau.
Il n'est pas si différent que de ce que.
Il justifie pas en fait ce surcoût.
Voilà.
À part la licence.
Soyons clairs, la justification, elle est juste au niveau des méthodes de production.
Et la licence
et le polish par rapport à d'autres, etc.
Ouais, même visuellement, c'est pas ouf.
Oui, et le fait qu'il soit en X milliards de langues, enfin, qu'il a la production value d'un triple A habituel de Ubisoft. C'est juste que là, n'importe quel Metroidvania, il se vend entre 17 et 30 balles. Celui-là est deux fois plus cher. Au revoir, quoi.
Oui, bizarrement, ça marche pas. Ouais. Et puis, encore une fois, ils avaient pas encore. Enfin, ils snobaient toujours la plateforme de distribution sur laquelle tu vends.
Non, bon, les Metroidvania, s'en fout. Honnêtement, c'est.
Ça fait partie de l'ensemble, si
entre,
tu veux.
Entre mon jeu n'est pas dispo sur Steam et mon jeu coûte 4 fois plus cher que n'importe lequel, il n'y a pas photo.
Ça joue. Ça joue. Je ne dis pas.
Si tu veux, Gab. Il n'y a pas de souci.
Mais pour moi, ça, c'est un ensemble de choses. Et je pense qu'il y a une vraie raison. Et je ne dis pas ça pour rien. Si aujourd'hui Ubisoft revient en rampant sur Steam. Il y a une raison.
Oui, Gab, il n'y a pas de souci.
Clairement.
Non, mais voilà.
Fait partie de la conclusion de tout de là où on va, mais.
Pour moi, c'est pas forcément rampant, parce que si tu regardes les dates, on est 5 ans pile après.
Il y a peut-être.
Et c'est peut-être la fin du deal.
Il y a peut-être une fin de deal.
C'est peut-être tout simplement la fin du deal.
Mais il y a déjà eu un changement dans ce qui était prévu.
Oui.
Alors que si c'est une fin de deal, ils avaient déjà l'info.
Mais une fois de plus, entre le marché PC et le reste, surtout pour Ubisoft, pas photo. Entre les, pour le coup, les chiffres sont publics vu qu'ils sont en bourse. Il y a, on est trois quarts un quart. Il y a pas photo.
Ouais, parce que du coup, on reste sur des déceptions en termes commerciaux.
Ouais.
La plus grosse, alors X-Defiant, c'est une chose. Ouais. Star Wars Outlaws.
Oui, Star Wars Outlaws, donc qui est le jeu qui faisait partie en fait des jeux à licence que voulait lancer Ubisoft dans leur plan pour le coup qui date de 2020, qui était donc de parier sur Avatar et de parier sur Star Wars, qui en fait après la grosse déception du Battlefield fait par EA a voulu diversifier les gens qui font des jeux pour eux en laissant à EA les Jedi Survivor, Jedi Fallen Order et en donnant deux autres jeux à deux autres boîtes, un qui s'appelle donc Jedi Outlaws pour Star Wars Outlaws à Ubisoft et Star Wars Eclipse pour Quantic Dream dont on n'a pas de nouvelles.
Non, mais Quantic Dream, il y a tellement de trucs à dire déjà.
Oh là là,
on pourrait s'amuser.
On pourrait faire une heure sur.
Oui, il y a eu un Solidaire Informatique qui nous a fait un petit communiqué il y a quelques jours.
Oui, voilà.
Bref.
Problématique, c'est que donc quand on dit je vais alors. Par exemple, les jeux Fallen Order et Jedi Survivor, ça s'est vendu à plusieurs,
quelques brouettes chacun.
Je crois que respectivement, c'est 15 et 12 millions de copies. Enfin bon,
ça a plutôt bien marché.
Ça a cartonné comme prévu
que ça cartonne. Voilà. Et les jeux étaient très corrects.
Les jeux étaient corrects. Alors beaucoup de bugs, etc.
Oui,
mais
ça restait des jeux très corrects qui respectaient bien l'univers.
En plus, Respawn qui faisait Respawn qui sortait de Titanfall 2, qui pareil, excellent jeu. Titanfall 2, gros gadin commercial, je pense qu'on les a un peu obligés à se mettre là-dessus. Et
ils ont bien fait le boulot.
Et il se trouve que, bon, bah, quand on a du talent, ça se pose. Après, attention, hein, pour tous les fans de Dark Souls, vu que c'est censé être Dark Souls-like, non. C'est trop facile, trop machin.
Non,
mais pour, pour le grand public dont je fais partie, c'est
bah,
parfait.
C'était clairement la cible.
Et c'était aussi la cible de Star Wars Outlaws. C'est-à-dire un jeu grand public qui va pas extrêmement loin dans chacune des mécaniques qu'il va, mais va essayer et qui a essayé des choses pour aller autrement que dans le open world Ubisoft avec plein de marqueurs partout, etc. Mais pour le coup, force est de constater qu'en termes de résultats, ça a pas marché vu que au bout de quelques mois, deux mois d'exploitation, excuse-moi.
Outlaws ?
Ouais.
Il n'est pas sorti fin août ?
On est octobre, un mois, pardon.
Pour moi, c'est quelques semaines.
Quelques semaines. En tout cas, 30 août, c'est vrai. Mm-hmm. Faut savoir que la vente des jeux, en général, dans les premières semaines, c'est crucial.
Ils attendaient pour les jeux à plein tarif.
Ils s'attendaient à beaucoup de millions d'un coup. Il s'est vendu à peu près 1 million d'exemplaires. Tu peux dire c'est pas mal par rapport à ce qui est attendu. C'est largement moins.
Ils attendaient 3-4 fois plus.
Voilà. Black Myth Wukong qui est sorti à peu près en même temps et qui triche parce qu'ils ont des Chinois avec eux. Mais bon, en gros, c'est 20 millions quoi.
Donc, oui. Ah, c'est, non, mais enfin, il y a des trucs qui se comparent et d'autres qui se comparent moins, mais clairement, si tu compares ce que Ubisoft attendait et à mon avis, ce qu'ils ont mis dans le prix de la licence, on est
à 4 fois moins facilement.
Ouais, minimum.
On a mis 4 fois moins et le plan de redressement est clair. On va essayer, en gros, ils vont essayer de faire oublier la sortie de août pour replanifier une sortie en novembre. Une sortie en novembre en disant bon ben pour le PC en tout cas ça sort sur Steam. On va sortir avec plein de patchs et un DLC que on filera gratos dedans. Faire l'effet d'une nouvelle sortie dès maintenant et pour surtout avoir un jeu à Noël parce que le jeu de Noël il sera pas là.
Oui, parce que c'est un ensemble de choses effectivement.
Oui. Il faut un gros jeu sous le sapin parce que
on va finir par Shadows, Assassin's Creed Shadows.
Oui.
Donc le prochain Assassin's Creed qui est censé donc se dérouler au Japon dans la période médiévale.
Oui, Japon féodal.
Qui
était réclamé à corps et à cri par.
Depuis des années, clairement.
Depuis Assassin's Creed 2, je pense.
Je pense, oui, parce que donc tous les Assassin's Creed se passaient dans un contexte géographique historique. Et historique différent.
Et là,
donc on a eu le Japon,
on est tous des gros weebs, le Japon.
C'est ça. Après, on a eu le Moyen-Orient, Jérusalem, on a eu Rome, on a eu Paris, on a eu Londres, on a eu le Nouveau Monde pendant la colonisation.
Ouais.
On a eu pas mal de choses. Mirage, c'est géographiquement, je ne sais plus où c'est.
Mirage, c'est Moyen-Orient.
Ouais, c'est à nouveau Moyen-Orient. Et du coup, le Japon, effectivement, ils n'étaient jamais allés s'y promener.
Je crois que Damas, mais je ne suis pas certain.
C'est possible.
Et ils n'étaient jamais allés au Japon. Alors, une fois, il y a eu un Assassin's Creed China.
Oui, mais c'était un petit.
Ça faisait partie des petits projets en 2D et tout ça. Okay.
Mais du coup, ce n'était pas le gros projet. Mais là, donc, ils ont montré. Alors, on savait que ça existait, que c'était en développement. Ils l'ont montré, ils l'ont sorti du bois, mai.
Alors, ils ont sorti lors de l'UbiConnect de mai, qui est un UbiConnect qu'ils ont fait avant les présentations
juste avant le début juin des grosses sorties, le faux E3.
Le truc s'appelait Code Red et on savait que ce serait le Japon féodal. Ils ont sorti juste une cinématique de jeu
où on a découvert les personnages
jouables. Ça fait quelques années que maintenant il y a plusieurs personnages jouables, à chaque fois un féminin, un masculin. Et sauf que là, c'était.
Oh bah c'est parti en couille, hein.
Là c'est
on parti va pas le dire autrement.
Parce que le personnage masculin est un personnage de samouraï noir. Qui s'appelle Yasuke, qui fait référence à une figure qui a vraiment existé au Japon féodal, mais ça on s'en fout parce que c'est woke et que c'est politique.
Ça. Et d'une certaine façon, ça montre bien certaines choses effectivement.
Voilà, c'est woke et c'est politique et c'est pas le vrai Japon parce que je veux pas un jeu avec un noir dans mon Japon à moi.
Voilà. Alors, réaction des joueurs effectivement qui d'un coup ont ouvert un livre d'histoire Et ont découvert que dans les Assassin's Creed, l'histoire, ils n'en avaient pas grand-chose à foutre.
Bah oui, parce que je rappelle que dans Assassin's Creed Brotherhood, je suis fan des premiers Assassin's Creed, à la fin de Assassin's Creed Brotherhood, désolé pour le spoil, le jeu à 15 ans au bout d'un moment, merde.
Faites un effort.
Faites un effort. On se bat contre le pape Borgia à main nue, qui, pendant que lui, nous balance des éclairs comme le bon vieux Palpatine. Mais et que parce que c'est normal parce que il a des pouvoirs qui lui ont été donnés par un dieu. Donc
des pouvoirs donnés par un dieu au pape. Oui, moi ça me semble complètement cohérent. Oui, à quel moment tu peux remettre ça en cause?
Alors ce sont des dieux extraterrestres, mais bon ça c'est autre chose.
Ah pardon.
Et vu que si c'est le pape, normalement il n'y a pas d'autres terres. Mais bon ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais globalement.
Il a toujours dit que voilà
cohérence historique là c'est la cohérence historique.
Dans
ça
la
va,
série Assassin's Creed, rien à foutre depuis le début.
Sauf que là.
On va pas le dire autrement.
Non là c'est pas un problème de cohérence.
Dans Unity c'est pareil.
C'est ce qu'on appelle de la bigoterie raciste comme du gamer. Du Gamergate, du...
Parce que la réaction, elle n'aurait pas du tout été la même. Enfin, elle est de cette ampleur. Avant, les gens se moquaient, clairement. Mmh. Hein. Parce que Ubi aimait bien dire on a fait venir des gens, des historiens, etc. pour parler beaucoup de la période. Mmh. On l'avait vu pour Valhalla, sur la période viking, avec effectivement beaucoup de consultants historiques qui étaient venus. Et c'est les mêmes consultants en fait historiques qui, quand le jeu est sorti, sont venus dire ok, bah visiblement, ils ont écouté... Enfin, ils n'ont pas écouté 90% de ce qu'on leur a dit pour faire le jeu. Ouais. Et... Avant, on s'en moquait, enfin, c'était. On s'en fout, c'est un jeu vidéo. Mais d'un coup, voilà, dans le Japon féodal, tu mets un personnage noir, d'un coup, là, les gens ont un problème.
Et en fait, voilà. Et là, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup. L'intégralité des discussions sur le jeu ont tourné autour de ça.
Bien sûr.
Après, voilà, il y a une grosse influence. Il y a une grosse influence d'une. comme dirait ce bon vieux Karim Benzema, une partie raciste de Twitter, c'est-à-dire Twitter.
Oui, son propriétaire en chef.
Voilà.
Propriétaire Elon Musk, qui s'est quand même foutu sur la gueule avec Marc-Alexis Côté sur le sujet.
Oui, non, mais.
Donc, directeur du studio Montréal, enfin de Ubisoft Québec. Sur le sujet, clairement, hein, sur le, la présence non, Sasuke, enfin, de Yasuke, pardon.
En gros, toute cette polémique est stupide. Mais disons que là, en fait, le report, il a été lié d'après, en fait...
Oui, parce que du coup, le jeu était prévu, ça ne pas allé jusqu'au bout.
Le jeu était prévu pour novembre. Hein, novembre, il a été remplacé par Star Wars Outlaws. Comment c'est déjà sorti? Non, pas du tout.
Personne n'a rien vu.
Voilà. Et il est prévu donc plutôt pour le
14 février.
Le début d'année 2025.
Le 14 février, très précisément.
Pour le faire cuire un peu plus. 14 février, c'est marrant, c'est la date où le. Ou en général, je pleure et c'est pas à cause de Saint-Valentin, c'est à cause d'un
de l'élimination. Mais non, mais cette année, ce sera pas pareil. Le PSG sera pas éliminé à la même époque cette année. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Toujours est-il qu'effectivement, on pourrait revenir sur les propos de Guillemot qui, pour défendre la présence, entre guillemets, de Yasuke, samouraï noir, dans le jeu, a voulu rentrer dans la discussion de l'historicité, du réalisme historique, alors que personne normalement constituée aurait envoyé ces gens se faire foutre et leur aurait expliqué que s'ils veulent de la réalité historique, ils ne vont pas jouer à Assassin's Creed. À un moment, il faut commencer à réfléchir.
Aller jouer à Europa Universalis, arrêtez de nous emmerder. Quoi.
Par exemple, ou à Crusader Kings, 12 volts.
Réalisme historique et Crusader Kings.
Le départ.
Oui,
la situation de départ est complètement réaliste.
Qu'on peut en faire. Bon, bref.
Exactement. Mais toujours est-il que, sa réponse est mauvaise dans l'approche. Tu défends pas ça en disant oui, mais on va essayer de faire le plus réaliste possible. Non. À aucun moment, t'as besoin d'aller dans le domaine du réaliste.
Bah, en fait, le truc, c'est que, le problème, c'est que entre l'annonce des résultats de Star Wars Outlaws et l'annonce du report, en fait, de Assassin's Creed Shadows, tu as Ubisoft qui est donc côté en bourse. Mais... L'action s'est méchamment cassée la gueule. Elle a perdu
50%. Plusieurs fois.
Elle a perdu 50% en un an.
Oui, et 20% il y a quelques jours.
20% il y a quelques jours, c'est vraiment.
Ils sont descendus sous un niveau de 2009.
Ouais, non, mais
ils ont perdu un truc monstrueux en termes de valeur.
C'est en gros la cata, et du coup.
La sortie, Shadows, je crois que de ce que je disais, ils estiment, ils espèrent, en tout cas, ils tablent sur déjà du mieux pour Star Wars Outlaws, que la sortie sur Steam les rebooste un peu, mais surtout, ils vont sortir Shadows sur Steam Day One. ce qui n'était pas arrivé depuis, ce sera le premier jeu donc depuis 5 ans, comme tu le disais, et ils tablent sur 7 millions de ventes.
Ce qui est très optimiste.
Peut-être, je me rends pas compte. C'est pas mauvais et c'est pas déconnant pour un Assassin's Creed.
Non, mais c'est optimiste.
Tout le contexte.
Après, voilà, bon, il y a Anderson qui est le tonton de Nintendo, en gros, l'insider qui s'est autoproclamé insider, qui dit que les précommandes sont plutôt au beau fixe parce que, en vrai, la plupart des gens n'ont rien à branler de leur histoire et que tout le monde attendait un Assassin's Creed au Japon et que voilà, et que ça fait partie des jeux un peu automatiques. Un peu comme les FIFA ou les Call of.
Ouais, ça va marcher.
Il y a des trucs un peu automatiques. Néanmoins.
Et le même Tom Anderson, d'ailleurs, qui prétend que le report est également pour préparer un mode coop.
Ah, ouais.
Parce que pas forcément une mauvaise idée en soi, dans un jeu où tu as deux personnages aussi différents, parce qu'on parle beaucoup de Yasuke, mais il y a un personnage japonais dans le jeu.
Faire cuire un mode coop en 4 mois, tendu. Hein. Mais bon, ok. Un mode coop qui tient la route, je veux dire, hein, si c'est pas prévu pour, mais bon, bref.
C'est pas comme si Ubisoft, il savait. Pardon.
Je veux juste reparler rapidement de si on a beaucoup parlé, si vous avez vu peut-être sur YouTube ou sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, pas mal de c'est la mère d'Ubisoft, Ubisoft va crever. C'est à cause d'une lettre ouverte.
D'un investisseur
qui s'appelle Engine Investment, qui est une boîte hongroise, si je dis pas de bêtises. Alors attention, faut relativiser l'importance du truc parce que c'est moins de 1% de Ubisoft.
Il se dit soutenu par d'autres, mais
bon, hein, c'est moins de 1%. Et en fait, c'est une lettre ouverte qui notamment a demandé à Yves Guillemot des changements structurels, comme rendre l'entreprise privée donc plus dirigée par les Guillemot, et puis essayer de la revendre. Notamment à quelqu'un qui est comme Tencent, qui est un actionnaire d'Ubisoft et qui est évoqué, qui a longtemps été évoqué comme partenaire potentiel prêt à
comme
bouffer
repreneur
Ubisoft.
Possible.
Aussi, il demandait aussi de réduire les coûts, clairement, de virer encore des gens, alors que Ubisoft a déjà licencié assez massivement au cours de ces derniers mois.
Comme tout le monde.
Mais il faut dire que Ubisoft a un modèle différent parce que contrairement aux autres boîtes qui vont prendre des prestations pour boucler leur jeu, Ubisoft, ils prennent des gens en interne avec des CDI, donc les coûts sont forcément plus grands que n'importe quelle autre boîte. Après, voilà, c'est un peu gonflé de la part de Edge Investment, hein, vu que c'est que 1% et qu'il y a encore un an, ils n'étaient pas actionnaires d'Ubisoft. Hein. Ils étaient actionnaires d'une boîte qui s'appelle Activision Blizzard. Avant qu'une autre boîte vienne et dise « Bonjour, on rachète pour beaucoup d'argent. »
Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait avec?
Voilà. Bah, après, je comprends, vu qu'ils étaient habitués aux affaires de Bobby, effectivement, Bobby, il traite pas ses affaires comme ça, Bobby. Hein.
Non.
Donc, voilà. Mais bon, et puis en plus, ce qui était assez marrant dans la lettre ouverte aussi, c'est qu'il y avait des mentions à des licences connues, comme Splinter Cell ou Tommy Clancy.
C'est ChatGPT qui a écrit.
Non, mais clairement, ils y connaissent que dalle. Voilà, mais le but, par contre, ce qu'ils connaissent, c'est les sous là-dessus.
Oui, ça, oui. Et effectivement, la situation d'ensemble, entre les actions qui se pètent la gueule et les ventes qui ne sont pas du tout au niveau par rapport à des investissements monstrueux sur la production, il y a des questions qui se posent. Je pense qu'ils ont quand même un peu de réserve.
Ouais.
Je pense qu'ils vont pas fermer demain.
Néanmoins, il serait pas étonnant que justement la chose pour le coup dont on parle depuis déjà 2021-2022, hein, Tencent qui rachète Ubisoft,
qui augmente sa participation.
Ouais. Et en tout cas, ça devient un scénario de plus en plus plausible parce que s'il augmente les participations avec un prix d'action beaucoup plus bas, ça devient intéressant quoi.
Mais du coup, oui, effectivement, une heure, c'était court. Pour voir d'où est parti Ubisoft et pourquoi on en est là.
Oh, je suis sûr.
Et on aura l'occasion. Voilà.
Je suis sûr qu'on reparlera.
Déjà, le 21 novembre, on en saura un peu plus.
Ouais.
Et puis, le 14 février, je pense que les dés seront jetés.
Oui, je suis en train de regarder du foot, probablement.
Je parle de l'émission, on suit un peu.
Quoi, pardon?
On va vous souhaiter une. Merci.
Je suis encore plein de sel, je suis désolé.
Oui, d'accord. Ouais. On va aller cramer une poupée à la effigie de Donnarumma.
On va faire ça. Merci de nous avoir écoutés.
Oui.
Attends. Le 23 octobre.
Chez les tartes.
Le 23 octobre, si vous aimez notre émission et que vous aimez les jeux vidéo, vous pouvez aussi nous retrouver parce qu'on fait un quiz qui s'appelle les presse tartes où il y aura du blind test, où il y aura des questions sur le jeu vidéo, des questions sur plein d'autres choses.
Sur la pop culture en général.
Ça se passe
chez les tartes.
Ça se passe chez les tartes. Donc le troquet qui a à côté de la place Satonnet rue Fernand-Ray. Place Fernand-Ray. Et le mieux, en fait, c'est de réserver une table directement sur Instagram, sur Facebook. Et vous nous retrouvez. De toute façon, on vous en parlera. On en parlera la semaine prochaine. Et en tout cas, d'ici là.
Bah, jouez bien.
Ciao.
Salut.